FR 89.1 MHz.
Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 23 avril 2005 et comme tous les samedis, nous ouvrons avec les magazines, suppléments week-end, BD, cinéma, télévision, puis ensuite cahier du sport, de à peu près 13h jusqu'à 15h, et à 15h de la musique avec Yacor Roulé, 17h Vie d'ordure, ça c'est du punk, 18h30 Clark Nova de la pop communiste pour les Bac plus 5, 20h la Stétéro Expérience, c'est la musique la plus starbe qui soit, 21h30 c'est un jingle très pompeux mais on aime bien, et à 23h Breakbeat Expérience, ça c'est la jungle qui tape, qui cartonne. Mais ça tombe bien, il faut une soirée samedi prochain. Enfin bon, comme d'habitude, vous êtes sur la poubelle des radios.
Éphémère, vous n'aviez jamais écouté de radio.
Et on fait un supplément week-end spécial sorcière cette semaine.
Bonjour Xavier, bonjour Sabrina.
Bonjour à tous.
Alors là je tiens à passer un énorme coup de gueule quand même Xavier, parce que là franchement tu nous fais une spéciale sorcière aujourd'hui, on accueille notre première chroniqueuse et tout ce que tu trouves à faire c'est faire une spéciale sorcière. Alors de là à soutenir que notre émission carbure à la testostérone, franchement.
We'll be right back.
Bonjour Thomas.
Bonjour Xavier.
Bonjour Sabrina.
Bonjour Xavier, bonjour Thomas.
Salut.
Donc on présente peut-être Sabrina, donc qui est là pour une première chronique.
Yes.
Ouais, super. Et ça tombe bien donc parce que ce supplément week-end est un spécial sorcière, comme l'a laissé sous-entendre un peu violemment, je pense, Demon in You. Nine Inch Nails Runner, c'est extrait du de l'album remix Further Down the Spiral. Et puis voilà.
Faut
et
que je le taxe absolument celui-là. Ce morceau.
Bon, d'accord, ok, tu le veux ? Ok,
oui.
Voilà, zou, allez, hop, il sort du lecteur et je te le passe. Et d'ailleurs, je te passe le témoin symboliquement, puisqu'on va parler quand même de ce qui se passe en ce moment en ville.
Oui, c'est ça, ça permet, la radio permet de faire ça. On va vous raconter notre petite soirée d'hier, puisqu'on était à l'ouverture du festival Extreme Cinéma qui a eu lieu à la Cinémathèque de Toulouse, avec le film d'ouverture d'hier dont on vous a parlé
la semaine dernière,
qui s'appelle La Mélodie du Malheur, The Happiness of the Katakuris, le film de Takashi Miike. La soirée était présentée par le collectif Mucho Bizarre.
Animé plus exactement.
Animé, très animé, oui.
Ouais, d'ailleurs, il y a eu des idées qui étaient sympas, et puis c'est vrai que le film en lui-même est un...
Une comédie familiale à la sauce
nulle.
Cigarettes qui font rire.
Exactement, c'était assez rigolo et
voilà.
Dommage pour ceux qui n'y étaient pas,
ouais,
mais
ça,
de toute façon la salle était vraiment comble, hein. Je crois qu'ils font 240 places de capacité dans la grande salle de la Cinémathèque, c'était plein et tant mieux, c'était une belle réussite, mais d'ailleurs toutes les ouvertures d'Extrême Cinéma ça a toujours été au taquet et tant mieux. Et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui les séances commencent à 14h30 avec le film de Michael Powell, Le Voyageur, dans la petite salle à 14h45 chaque soir à 9h, le film de Jack Clayton. 16h30, L'Incroyable Alligator de Lewis Stig. 16h45, dans la petite salle, Coco, le gorille qui parle de Barbette Schroeder. Barbette Schroeder, ça vous dira peut-être quelque chose. Dans le cycle Bad Girls Go to Hell à 18h30, Ilsa, la gardienne du harem de John Edmonds. Voilà, 18h45, Scum de Alan Clark. 20h30, A Gun for Jennifer de Todd Morris et Deborah Twiss. Et à 20h45, La Chatte à deux têtes. On peut donner le programme des deux petits films qu'il y aura demain également.
Tu parles.
La première séance est à 14h30, Fondue au noir de Vernon Zimmerman, et à 16h30, L'Ange de la Vengeance de Mr. Abel Ferrara.
Quand même, s'il vous plaît. Et ma foi, puisqu'on en est toujours dans le cinéma, toi tu voulais faire une chronique DVD.
Voilà, on va continuer dans le cinéma avec la sortie DVD de Collateral, qui est le DVD sorti il y a quelques jours d'ici. Le film est sorti en 2003, il a été réalisé par Michael Mann, je reviendrai sur ce mec tout à l'heure, on va commencer par le pitch du film. Un mystérieux tueur tout en gris, c'est-à-dire costume, cheveux, barbe, etc., prend en otage un chauffeur et son taxi pour aller buter 5 types en une nuit à travers Los Angeles. On a vu plus compliqué comme pitch, je vous l'accorde, sauf que c'est Michael Mann qui le réalise. Michael Mann, c'est quand même un mec qui n'est pas le premier venu. Xavier, tu nous diras quelques mots sur lui.
Non, Michael Mann, entre autres, s'est fait connaître pour son style de production très particulier. D'abord en tant que scénariste de Starsky et Hutch, ensuite comme producteur de Miami Vice. D'ailleurs, les deux personnages principaux de Starsky et Hutch ont réalisé énormément d'épisodes. Et il a à la fois, on va dire, une patte très particulière dans le cinéma, où il laisse la place justement au contemplatif, chose quand même qui est plutôt rare dans le cinéma hollywoodien en termes de polar, en mainstream, mais aussi accessoirement, il a des goûts musicaux qui sont pas toujours complètement, mais quand même assez tournés vers l'underground, vers les circuits parallèles et pas uniquement les top 50 et ce qui marche, comme par exemple ce qu'on entend dans CSI.
Oui.
Puisqu'ainsi, dans le pilote de Miami Vice, on a pu entendre Sting, voilà. Et c'est vrai qu'il cartonnait pas mal à l'époque. Et dans Hit, il y avait quand même une pro qui était assez couillue. Il y avait notamment 07, je crois. Donc il y avait énormément de choses.
Donc pour compléter ta présentation remarquable de Michael Mann, on va souligner quand même que c'est un mec qui est né en 43 à Chicago et qui est parti étudier le cinéma en Europe. C'est de là que vient sa propension à faire, réaliser des plans à la fine d'auteur, on va dire, puisque il a toujours baigné dans une double culture, c'est-à-dire l'appartenance à son pays d'origine qui est les États-Unis et qui va beaucoup filmer Los Angeles notamment, et justement sa propension à réaliser des films autorisants. Il a commencé par le documentaire puisque c'est quelque chose que beaucoup, peu de gens savent, mais il a commencé par faire un documentaire sur les manifestations dans les années de mai 68. Et il a d'ailleurs été primé à Cannes pour un premier court-métrage qu'il avait fait, qui s'appelait Jean de Purie. Sa carrière commençait à mal démarrer, mais heureusement, il a commencé à scénariser les quatre premiers épisodes de Starsky Hutch, dont tu parlais tout à l'heure. Et il a par la suite réalisé deux premiers films qui étaient Le Solitaire et La Forteresse Noire. Et à cette époque-là, tout le monde le traitait comme une espèce de clodo. Ses films ne marchaient pas vraiment. Et c'est là qu'est arrivé Miami Vice, justement. Et Miami Vice, ça a été un véritable tournant dans sa carrière.
Ça a été à la fois un carton au niveau audience et aussi sur une remise à plat complète sur la manière dont on filmait la plupart des polars aux États-Unis, c'est-à-dire que par exemple des polars, j'en parlais à l'instant, c'est assis les experts, ça a donné une autre manière d'écrire, c'est-à-dire justement des policiers qui sont pas tout blancs, tout noirs, laisser le doute systématiquement dans le personnage.
Oui, c'était une série qui explorait en sa profondeur la psychologie des personnages et qui avait beaucoup inventé aussi dans la manière de réaliser l'épisode, c'est-à-dire que il a inventé un certain type de cadrage dans les séries télé, un certain type de costume, l'utilisation du son, de la musique, on en parlait
tout à l'heure. Voir des plans de très loin sur les scènes de crime pour prendre la globalité et voir le public.
Oui, et par la suite, ce sont ces codes-là qu'il a inventés qui sont devenus donc des stéréotypes dans les séries, c'est pour ça que si vous vous amusez à revoir aujourd'hui les épisodes de Miami Vice, vous aurez peut-être l'impression d'avoir vu ça à peu près partout, sauf que c'est eux qui l'ont inventé.
Voilà.
On va passer assez rapidement sur le reste de sa filmo, mais bon, on va juste mentionner qu'il a quand même fait Manhunter d'après le premier bouquin de Thomas Harris mettant en scène donc Hannibal Lecter, et avant Anthony Hopkins, c'était Brian Cox qu'il avait incarné, qui a fait beaucoup d'autres rôles par la suite, notamment dans L'Infâme 3 ou dans X-Men 2. Il a par la suite fait d'autres musts du genre comme peut-être Hit, peut-être ça vous dit quelque chose, Révélation, Ali, et en passant par Le Dernier des Mohicans, sachant que du sport nous avait fait part là il y a quelques semaines de sa volonté d'adapter au cinéma sa série dont on parlait tout à l'heure, Miami Vice.
Et ça, on l'attend avec beaucoup d'impatience.
Voilà, on revient à Collatéral parce qu'on va un petit peu parler du casting.
Ouais, donc, là tu débordes.
Hein. Oui. le mec tout en gris, c'est Tom Cruise. Alors, quand on comprend qu'il avait foutu en gris parce que c'est un mec, un tueur qui essaie de passer inaperçu dans la foule, qui prend les transports en commun et dont justement le principal atout c'est de pas marquer les gens parce qu'il a un physique assez commun.
Quelconque.
Et voilà, il prend Tom Cruise. Cherchez l'erreur. Voilà, donc Tom Cruise est secondé par l'excellent Jamie Foxx, Jada Pinkett-Smith, donc on avait pu voir également dans la trilogie Matrix, Mark Ruffalo, Peter Berg qui est devenu ensuite qui est aussi réalisateur, Bruce McGill. Alors c'est dommage que du sport soit pas là parce que Bruce McGill c'était le copain de MacGyver, le copain pilote d'hélicoptère moustachu un peu randouillard.
Sauf que il arrêtait pas de faire des conneries aussi.
Voilà, t'as tout compris. Et l'excellent Javier Bardem qui incarne un parrain de la mafia à Los Angeles. Pourquoi ce Collatéral est un film ultime? D'abord, Michael Mann, c'était quelqu'un qui s'est toujours intéressé à des personnages allant jusqu'au bout. On se souvient surtout des personnages de Heat avec les héros interprétés par Al Pacino et Robert De Niro. On se souvient de la phrase que prononcent ces deux gars dans la confrontation mythique « Je ne sais rien faire d'autre, j'irai jusqu'au bout ». Et donc voilà, c'est quelqu'un qui est toujours allé au bout de la présentation de ses personnages. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on apprend dans le DVD. Arrête de me distraire, ça, Wena. C'est quelque chose qu'on apprend.
Thomas se fait fesser en direct. Voilà, on a trouvé sa phrase culte. Tu peux les noter le nombre de fois qu'il dit ultime, tu comprendras.
Je l'avais déjà repéré.
Voilà, donc là, on retrouve encore deux personnages fonctionnant en miroir. On avait déjà ça dans Manhunter, dans Hit, dans Révélation. C'est une thématique qui revient souvent, etc. On peut aussi noter dans sa volonté de transposer le scénario d'origine qui se passait à New York. Il a voulu le transposer à LA. Et justement, la grande force plastique du film, c'est qu'il a choisi d'utiliser la caméra Sony HD pour impressionné sur pellicule et toutes les subtilités d'un paysage urbain nocturne. C'est-à-dire que il utilise le paysage comme un personnage à part entière, soulignant sa poésie, etc. Mais pas seulement. C'est aussi quelqu'un qui choisit ses paysages en fonction de l'état d'esprit des personnages. Il explique notamment dans les DVD que dans il y a une scène qui se passe dans le métro et justement il a voulu mettre par exemple un plan d'arbre mort derrière un personnage très important du film qui meurt, etc. Il a voulu jouer sur les formes géométriques pour souligner certaines actions. C'est quelque chose. Il ne laisse absolument rien au hasard, et c'est une autre facette de son travail qu'on voit dans le DVD. C'est quelqu'un qui est extrêmement méticuleux et méthodique. Et on voit justement dans les bonus les répétitions avec les acteurs et son commentaire qu'il fait sur le film. C'est quelqu'un. On voit son amour pour les personnages et le soin qu'il a apporté sur son travail avec les acteurs. Voilà, c'est un excellent DVD. DVD collector de Collateral, voilà, qu'il faut se procurer d'urgence.
On aurait dû inverser parce que du sport vient d'arriver, donc voilà. Bah, tant mieux, tant pis pour Collateral, voilà, mais tant mieux qu'il soit là parce que je vais parler du dernier Manu Larsonnet. Et du coup, je saute les deux autres BD que j'avais prévus. Total Souk pour Nick Umouk. Le premier tome donc vient de sortir dans la collection Poisson Pilote, qui est une collection humour donc aux éditions d'Argo. Manu Larsonnet, on le connaît pour son Bill Baruch chez Flic Glacial, Pedro Lecoati, les aventures de Vincent Van Gogh, Libérateur de la palette chromatique, mais aussi pour des albums plus personnels qui étaient sortis chez des éditeurs indépendants, comme par exemple chez des éditeurs indépendants, justement, Le Retour à la Terre, qui est une espèce d'autobiographie en trois tomes, qui est sorti chez Dargaud, où il raconte comment lui, enfant de la Tessie, tu vois, qui le fait et qui est câblé, informatisé jusqu'au bout, il s'installe à la campagne avec sa femme qui est en cloque et avec son chat qui fait des bruits bizarres. Non, il fait pas miaou, il fait... Enfin bon, voilà, c'est bizarroïde. Et notamment un bouquin qui est très peu connu, c'est dommage, qui s'appelle Presque, où il raconte comment dans son service militaire, il a presque tué un homme, vraiment par bêtise, et il en a fait un bouquin anti-militariste assez surprenant. Bref, revenons à Nick Umouk. Ben, son père, on le verra jamais de tout l'album. Ben non, il est allé partir construire une autoroute loin, très loin, quelque part en Tanzanie orientale, et ça fait au moins 5 ans. Et puis c'est long à construire une autoroute. Hein. Enfin voilà, c'est ce qu'a trouvé sa mère marocaine pour lui dire que son père l'a quitté et qu'il ne le verra plus. Bon voilà, et en même temps, elle fait ce qu'elle peut pour essayer de donner les basses scènes d'une éducation à son gamin qui a 10 ans, mais visiblement le Nick, ça lui passe complètement par les oreilles. Il préférait être manager de gangsta rap de son copain Jean Bernard, alias Jean Bonneau, auteur d'un titre autoproduit tiré à un seul exemplaire, je démembrerai les gamins avec mon Rottweiler, et qui est en train de répéter son nouvel album, mais il peut pas le faire parce que sa mère lui interdit de le faire chez lui, alias j'exploserai les hamsters contre les murs. Donc évidemment il se dit bon, alors si manager de rap ça marche pas aussi bien que ça, et tant pis, je serai délinquant. Et oui, parce que malheureusement il se fait régulièrement racketter par un gros black costaud et sa bande qui s'appelle Yannick Noah. Donc évidemment c'est un peu problématique. Bref, Nick Umouk, lui, son rêve, c'est de se faire de l'argent facilement. Comme ça, il pourra réussir à s'intégrer. Ben voyons. Heureusement, il y a Educator, le justicier du bon usage du français, qui fait trembler les mômes du peu d'indication, et c'est à pleurer de rire. Par exemple, Nick Umouk qui est en train de taguer sur un mur, la police, c'est des crétins, sans S, et là, Educator lui dit, mais non, la police, c'est pas un policier, c'est des policiers, c'est crétins au pluriel. Et résultat, Nick Umouk se retrouve condamné à taguer sur tous les murs de la Tessie, je m'appelle Nick Umouk et je suis un bourricot qui ne connaît pas le pluriel. Évidemment, ça vous fait une réputation d'enfer. Total Souk pour Nick Umouk, c'est de Manu Larsonnet, c'est chez Poisson Pilote, et franchement, je me suis tordu de rire en le lisant, ça vaut le coup, donc je sais que ça va faire plaisir. Zou, je ne sais pas qui c'est qui va me l'emprunter, là.
Hein? On va aller à la petite pêche. Allez, le premier qu'il y a. Ah ouais.
Bah
ouais. Sabrina, pour toi.
Oh, pour moi, merci beaucoup.
Vous écoutez Radio FMR, c'est le supplément week-end avec Thomas, Sabrina et du sport qui viennent nous rejoindre, que je laisse s'installer. On va mettre une fond musical et on va entamer donc notre thématique autour des sorciers.
Sorcières. Ben alors, pourquoi tu tousses ? Tu vas pas voir la petite sorcière ? Pour te soigner ?
Et alors justement, à propos des sorcières, c'est un peu idiot, vous voyez, parce que j'ai parlé d'une bande dessinée il y a 2 semaines, en émission du 9 avril dernier, c'était Méliane Mélanie, de Thierry Chabran, Femmes et Flammes, dans la collection Partout Mortem, chez Albin Michel, où il faisait un parallèle entre les sorcières au Moyen-Âge et les filles qui ont des mœurs plutôt libérales et qui aiment bien zapper, puisqu'après tout, les sorcières, on peut les aborder par plusieurs angles. C'est ce que l'on va faire pendant tout le long de cette thématique, c'est-à-dire, est-ce que les sorcières, ce sont plutôt, des filles sont mises de côté. Ben d'ailleurs, du sport l'a ramené. Du sport, tu en as pensé quoi de cette BD ? Allez, hop, mets ton micro.
Franchement, moi, c'est pas trop mon kiff, comme ils diraient les jeunes. Bon, c'est pas mal, c'est assez bien amené. L'histoire est bien foutue, si tu veux, quoi. Mais bon, j'adhère pas, quoi. Je suis pas dedans, quoi. Vraiment, donc, bof, quoi. Et bon, moi, j'aime pas tellement ce genre de dessin, franchement.
Le dessin fait rebuter un peu.
Hein. Ouais, ça tire trop dans les couleurs un peu sombres, grises, comme ça, quoi. Je veux dire, bon, ça manque un peu de. Je sais pas, quoi.
T'as retenu un peu que dans l'histoire, la sorcière, c'était une femme infidèle qui attirait. Enfin, pas infidèle, mais une femme un peu libre et qui attirait un peu les hommes dans sa bouche.
Je pense que justement sur la longueur du bouquin, l'argument est un peu léger, quoi. Disons, ça tient pas la route.
Mais à l'époque quand même.
Sur la longueur.
La femme, c'est le siège du diable.
Oui, mais d'accord, ok, mais bon. mais si ça peut amener des gens qui connaissent pas cette période de l'histoire et cette facette de l'histoire et surtout de la religion. Très bien, je suis d'accord, j'adhère à 100%, mais enfin bon, sinon, bon, voilà, c'est tout. Hein. Sinon, c'est bien fait, il n'y a pas de problème.
Sur le thème de la sorcière, peut-être celui qui en a le mieux parlé, justement, à propos des procès des sorcières, c'est Arthur Miller, l'auteur de la pièce Mort d'un commis voyageur, mais surtout pour The Crucible, Les sorcières de Salem, où en fait, il a très bien exploité le thème de la rumeur et de l'hystérie générale, et ça tombe plutôt bien puisqu'il a écrit en 54 où quand même c'était un auteur qui était jugé à gauche, oui, mais ça tombait mal, c'était en plein marcartisme à Hollywood, et donc forcément il a décrit un peu ce qu'il pensait de cette espèce de chasse aux sorcières, cette fois-ci avec des communistes, c'est-à-dire que on peut accuser n'importe qui finalement d'avoir des idées, et quitte à mourir pour des idées, autant mourir, oui, mais de mort lente. Bref, dans The Crucible, Arthur Miller explique un peu ce que c'est que le plaisir de partir à la chasse aux sorcières et de dire witch, 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 Burna, brûlez-la, 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 sorcière, brûlez-la, brûlez-la. Enfin bon, je me demande s'il l'a fait ce coup à sa femme Marilyn Monroe, mais bon, j'en doute quand même. Enfin bon, on va commencer peut-être à parler carrément cinématographie puisqu'on en était pas loin.
Cette semaine, il y a eu Mulholland Drive. Et dans Mulholland Drive, il y avait Naomi Watts. Alors après s'être perdue chez David Lynch, elle est allée se perdre dans le monde impitoyable du remake. Puisque Ring 2 sort en ce moment au cinéma. Il faut savoir que Ring 2, réalisé par Hideo Nakata, qui est un remake de son propre film qu'il avait tourné au Japon, sachant qu'il a réalisé les deux premiers. Non, en fait, c'est les deux derniers, parce qu'il y a eu une préquelle ensuite qui a été réalisée par un autre mec. Mais en fait, Ring 2, c'est plutôt un remake de Dark Water qu'il a fait...
Bon, si vous n'avez pas suivi...
C'est vrai qu'on s'y perd. Hein. Même moi, je me suis perdu au bout d'un moment. Ton explication hein, qui a arrangé les choses. C'est clair.
Si vous n'avez pas suivi, je rappelle quand même que les émissions sont téléchargeables sur le net. Vous pourrez essayer de la repasser 10 fois, vous ne comprendrez toujours pas. Vas-y, continue, je t'en prie.
Bon, c'est juste que Sadako, ben en fait, elle a été enterrée vivante dans un puits parce qu'elle est accusée de sorcellerie quand elle était à l'école. La pauvre. Par son propre père, en plus. Enfin, son propre père, on ne sait pas trop si c'était son père, en tout cas.
Oh, c'est compliqué encore.
Oui.
Qu'est-ce que tu veux venir sachant, là par là, là je comprends
sachant,
pas là.
Sachant que c'était adapté d'une série de bouquins et qu'ils l'ont ensuite transformé en manga en ce moment. Youpi.
Donc voilà, donc Ring 2 est une histoire d'ailleurs au départ, une histoire de rumeur, une fois de plus.
Une rumeur urbaine.
Voilà, ou d'ailleurs qui a été jouée par les producteurs nippons comme commercialement sur le plan de la rumeur, puisque en fait ce qu'ils ont fait pour la promo du premier film, c'était très fort, c'était distribuer des vidéocassettes avec juste la bande en question, là, tu sais, la partie la plus inquiétante, celle qu'on a en bonus sur le DVD, avec à la fin un message marqué dans une semaine vous saurez. Et distribué à toutes les chefs de classe des écoles Tokyoïtes, enfin des grands centres urbains, histoire d'alimenter la rumeur. Et évidemment, au bout d'une semaine, eh bien, il y avait le film qui sortait, donc c'était très très bien amené commercialement de ce côté-là. C'était
oui, ce type de film, de toute façon, dont pas la propagande, mais la promotion a été faite de cette manière-là, ça a toujours marché. On se souvient aussi de Blair Witch Project, etc. Donc, de toute façon, ils savent très bien les ficelles, donc ça marchera toujours.
Voilà. Dans le rythme quotidien, si je puis dire, dans un monde un petit peu légèrement parallèle, il y a une excellente série qui est produite par Dugommier et Hers. Ce sont deux auteurs de bande dessinée que vous connaissez peut-être pour une BD pour enfants qui avait fait les bonheurs des publications jeunesse, qui s'appelle Muriel et Boulon. L'histoire d'une gamine et de son robot en forme d'araignée qui est très sympa, très gentillée, etc. Et un dessin qui est très boule et bide, je vais dire. Et là, les démons d'Alexia. Un truc qui sort quand même Spirou, mais beaucoup plus violent. C'est carrément assez étonnant. C'est l'histoire d'Alexia qui est une jeune fille qui a 20 ans et qui a des dons en tant qu'exorciste. Elle est même très talentueuse puisqu'elle se fait recruter par le CRPS, le Centre de Recherche des Phénomènes Surnaturels, qui est un organisme international de chercheurs sur l'occulte, de nécromants et tout ça, qui essaie d'étudier de manière scientifique tous les phénomènes. Il faut savoir que le CRPS, eh ben, à l'origine, c'était l'Inquisition qui l'avait monté et que, ben, tout simplement, les directeurs du CRPS sont tous des descendants de grands inquisiteurs, notamment du procès des sorcières de Salem. Or, il se trouve qu'Alexia, dans le premier tome, on apprend que c'est une des descendantes des sorcières de Salem et elle craint, en fait, de se faire dominer pendant tout l'album, pendant tout le deuxième tome.
Dominer, c'est-à-dire?
C'est-à-dire, son instinct de sorcière revienne et prenne le pas, finalement, sur celui d'exorciste.
Ah, ça n'a rien à voir avec voilà. La SM, alors.
Non, pas exactement, mais dans le deuxième tome, elle va enquêter sur d'étranges meurtres qui utilisent l'eau. Alors, comme quoi, Ring 2, Darkwater, l'eau.
On y est.
Ah, là, on est en plein dedans. Et cela va la conduire sur un ancien lieu druidique, donc où il y a des meurtres assez bizarres, où à l'arme blanche, on ne retrouve pas cette arme en question. Et d'un autre côté, elle va se retrouver à essayer de percer les incidents qui sont déroulés en 1985, qui ont conduit le CRPS à avoir condamné la moitié de son bâtiment, parce que ce serait une porte vers l'au-delà. Bref, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien dessiné. En plus, sur le ton de l'enquête, c'est bien amené. Il y a des personnages qui sont très riches, qui ont une psychologie. C'est une BD jeunesse, quand même, qui est 12 ans minimum, à mon sens, comme classification. Mais qui est bien amené, qui se lit vraiment comme un polar, d'une manière assez agréable. Et c'est une espèce de X-Files en BD qui est très sympa et vraiment allumé, en tout cas. May there be peace and love. J'ai parlé tout à l'heure, non, j'ai passé en introduction tout à l'heure un morceau interprété par Clark au chant, Mayo et Van Valamgem. Excusez-moi, hein, c'est flamand, franchement, c'est un peu la peste. Clark, c'est le dessinateur avec Gilson au scénario d'une des BD qui sort aussi chez Spirou. Les plus amusantes qui soient, à mon sens, sur ben, justement les sorcières. C'est l'histoire de Mélusine. Mélusine ?
Ouais !
Ben, c'est une fille au père qui est dans un espèce de château au fin fond d'une contrée moyenâgeuse. Où le maître de maison est un vampire, la maîtresse de maison un peu acariade des fois hein, est une fantôme. Elle est étudiante en dog de sorcellerie.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai, oui. Où en fait, elle a une tante qui est bien expérimentée, mais ma foi un peu perverse des fois. Elle a aussi une copine qui est particulièrement bête et conne comme un balai, puisqu'elle arrive quand même à foncer dans la mauvaise fenêtre, c'est-à-dire celle qui est fermée, pour rentrer dans une maison, c'est un peu idiot. Voire même carrément dans le mur.
Comme quoi, les balais sont cons.
Non, à mon avis, c'est pas la voiture qui conne, hein,
c'est le personnage.
Ouais, enfin, femme au volant. Pardon. Excusez-moi. Je ferai un mandat honorable après.
Vu que je suis une sorcière, je peux me transformer en louve.
Oula, je m'inquiète. Donc pour en revenir, et aussi, donc, et ben, elle a malheureusement une cousine qui est une fée et qui est conne comme ses pieds. Bah oui, décidément. Mais je vais dire, non, c'est pas qu'elle est conne. Je vais dire qu'elle est dans son petit monde, etc. À la Disney. Hop, un baba au rhum. Et d'ailleurs, elle peut s'empiffrer autant qu'elle veut de baba au rhum, puisqu'elle a un sort magique qui lui permet de ne pas grossir. Ce qui, à mon avis, doit résolument faire râler Mélusine, qui est quand même très pointilleuse sur sa taille, sur sa ligne. Et bref, c'est une BD qui est assez amusante. Enfin, je sais pas, là, pour une fois, je vais laisser parler Sabrina dessus, en impro. Ce que tu en penses, tes impressions dessus.
Mes impressions, tout ce que tu as dit, en fait, hein. Complètement, à la fois ludique, déjanté.
Et surtout
c'est surtout pour enfants, mais en fait, même les grands peuvent le lire.
Parce que quand même, ce sont des filles qui sont très bien dessinées, bien amenées. Ouais, mais ouais. C'est toujours suggéré là-dessus, c'est très clean.
Oui,
et c'est des histoires
fait.
Qui sont très rigolotes. Donc, ce sont des histoires courtes en général et ça se lit avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Et donc, ce que l'on a entendu, c'était un CD qui était encarté dans la première édition d'un album. C'était les auteurs qui avaient pété un plomb, qui avaient décidé de faire comme ça, un petit album pour rigoler en une nuit dans un studio. Et donc, c'est des chansons à écouter au coin du feu. On avait écouté Inferno.
Là, oui, dans une précédente émission.
On avait écouté un autre morceau, c'est vrai, Filtre et Breuvage. C'était une question de café d'ailleurs, si j'avais bien compris. Non, t'avais pas suivi, d'accord.
Non.
Au revoir. Ok, au revoir. Oui, j'avais oublié de signaler quand même les références de l'album Clark et Gilson, donc Mélusine, qui est une série qui paraît chez Dupuis et dont ils en sont, je crois, au 11e tome, 12e, excusez-moi, voilà. On va parler d'une autre série animée cette fois-ci qui s'appelle Magical Dolemy. C'est en DVD chez Toei Animation et Dolemy, ben, c'est l'histoire d'une petite fille qui a quoi ? Elle a 8, 10, 12 ans, un truc comme ça.
8 ans.
C'est le modèle vécu, hein, pour ce qui me concerne, de la petite sœur insupportable. c'est-à-dire qu'elle trouve que le monde est vraiment, 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 vraiment trop injuste.
Oh, Calimero.
Voilà, c'est le syndrome Calimero, comme tu le dis si bien, Sabrina. Heureusement, elle a ses amis quand même qu'elle va se faire au fur et à mesure. Ses copines Azuki et Aiko.
Mais... 3.
Elles sont 3, ouais. Non, elles sont 3.
Au début de la série, elles sont 3.
Ouais, elles sont 3.
Et ce qui est arrivé à Doremi, c'est que un jour, elle est rentrée dans une échoppe un peu bizarre, un peu étrange, comme ça, parce qu'elle était attirée. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et tout d'un coup, elle s'est rendue compte que celle qui tenait l'échoppe, Majorica, eh ben, c'est une sorcière. Donc elle a pointé son doigt et elle a dit trois fois, sorcière! 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 Boum! Et là, Majorica, hop, transformée en grenouille magique. C'est un peu idiot, évidemment c'est pas pour lui faire exactement plaisir. Elle a dit bon alors espèce de petite cruche, ce que t'as fait, eh ben va falloir le défaire. Et pour cela il y a qu'un moyen, c'est de devenir une sorcière, c'est-à-dire que je vais t'apprendre mon art et comme ça tu vas me redonner une forme humaine, hein, tu es bien gentil. Et voilà comment Doremi et ses deux copines se transforment en des sorcières J-pop avec des capes fluo et tout ça. Qui font des sorts, je vais dire, c'est un peu le principe de la Magical Girl, c'est-à-dire la fille qui se transforme, etc. Enfin, vous voyez le truc, le topo. Sauf que là, et ben, c'est un truc complètement zarbi, assez acidulé, un monde pop assez étrange. D'ailleurs, ça a beaucoup de succès auprès des adultes sur place, alors que c'est plutôt un truc pour enfants.
Ouais, tu m'étonnes. Elles sont habillées comment?
C'est plutôt cuculapraline, quand même.
C'est très cuculapraline, mais bon, c'est à pleurer de rire. Surtout quand elles doivent reprendre les shops, en faire leur petit commerce, tout ça pour gagner de l'argent, pour pouvoir acheter des boules magiques. C'est-à-dire qu'en plus, elles apprennent à être des businesswomen. C'est surprenant, je veux dire. On voit ça dès le quatrième épisode. On n'en serait jamais ça dans une n'importe quel autre pays, quoi. Comment on peut montrer ça à des gamines? Comment vendre, faire du commerce, etc. La loi de l'offre et de la demande. Eh ben non, ben là, ça y va, sérieux. Il y a 4 saisons de 51 épisodes de 12 minutes, plus un spécial pour chaque épisode. Il y a un OAV, il y a un film, je crois, qui est prévu. Et une très très bonne version française, puisque ça a été diffusé sur Jetix, enfin l'ancienne chaîne Cartoon. Non, pas Cartoon, du sport. Tu peux pas m'aider?
Jetix.
Jetix, oui, c'est bon.
C'est Cartoon Network.
Qui vient de fêter ses 1 an d'existence.
Voilà. Et donc, c'est une série qui est sortie en DVD chez Toei Animation. C'est idéal pour scotcher les gamins parce que c'est mignon, c'est rigolo. Et puis voilà. Et pour l'apprentissage de la petite sorcière, il y a Kiki. Kiki la petite sorcière qui vient de sortir en DVD dans la collection Ghibli chez Buena Vista Distribution. Qui est un dessin animé réalisé quand même par Miyazaki. On peut pas hein, non.
Si non, quand même.
Voilà, c'est l'histoire quand même d'une gamine de 13 ans qui a décidé d'être comme sa maman sorcière, seulement les lois des sorcières veulent que à 13 ans tu deviennes émancipée, tu deviennes indépendante. Donc que fait la gamine? Eh ben elle enfourche son balai, elle prend son chat, elle fait son petit balouchon et hop, elle part de la campagne, elle va à la ville et va installer un commerce de livraison de pâtisserie en balai volant. C'est à pleurer de rire, c'est mignon comme tout, c'est très joli. La boulangère est enceinte jusqu'aux yeux. Le père, lui, il hésite entre ses pistolets, ses croissants, etc. Et d'un autre côté, je vais devenir père. Kiki, elle apprend au fur et à mesure que « Oh, mais tous les gens me regardent quand je plane au-dessus d'eux. »« Bah ouais, patate, on voit ta petite culotte en douille. » C'est que des trucs comme ça, c'est très rigolo. Voilà, c'est du Miyazaki, c'est-à-dire on peut y aller. C'est un spectacle familial, on va y revenir. Et c'est très mignon. Il y a quand même, chez Miyazaki, du beaucoup plus tragique. Et là-dessus, il y a le château ambulant, dont on a parlé en janvier dernier. On avait dit que c'était adapté d'un roman. Un roman de Diana Wynne-Jones. Et là, je cède la place à Sabrina.
Bah oui, donc le château ambulant. Normalement, on parle le vrai nom du château ambulant de Diana Wynne-Jones. C'est Aoru no Gokushiro, donc le château de Hurle.
Ouais, mais là-dessus, on fait confiance à nos amis de Disney Distribution pour trouver des noms stupides. Youpi. En français. Enfin bon, voilà.
Hélas. Mais en fait, le vrai nom du château ambulant, parce que c'était un petit garçon qui avait donné le nom à Diana Wynne-Jones. Elle avait visité une école et le petit garçon a dit « Mais pourquoi pas tu t'appellerais ton roman Le château qui bouge ?» Voilà, c'est parti de là. Mmh. Voilà, pour info.
Oui, oui, vas-y.
Donc, Le château de Hurle est sorti, publié en 86 en Grande-Bretagne et 6 ans plus tard en France.
Ouais, d'ailleurs, c'est dommage parce que cette auteuse anglaise a énormément de succès dans les pays anglo-saxons et très, très, très peu traduite en France.
Oui,
bizarrement.
Très peu. Elle est surtout connue par ses contes fantastiques, science-fiction, surtout pour enfants. Et elle est surtout connue par sa série qui s'appelle. Attendez. Les mondes de Crestomancy.
Voilà, tu y es arrivé, c'est bien.
Ouais. Alors, on a fait plusieurs, les magiciens de Caprona, ma sœur est une sorcière, etc., etc.
Et donc l'histoire par rapport au dessin animé donc qui a été repris en main par Miyazaki parce que c'était pas lui qui était l'initiateur.
Je vais vous dire un petit peu l'histoire, raconter un petit peu vite fait l'histoire. Donc c'est l'histoire de Sophie qui a 18 ans, qui est surtout soumise par son destin d'aîné de famille. Elle est chapelière et un jour elle contrarie une sorcière, la sorcière du désert. Elle est métamorphosée en vieille femme.
Instantanément, là, elle est passée d'une jeune fille dans la fleur de l'âge.
De 18 ans, la fleur de l'âge, à une vieille mémé.
Râleuse du coup. Râleuse du coup, parce qu'elle se rend compte que physiquement, c'est assez dur.
Très râleuse, acariâtre. Enfin bon, voilà, tous les défauts. Donc, elle va partir chercher fortune ailleurs. Et elle va tomber sur le château de Hurle. Le magicien, qui est prétendument cruel, charmeur, qui vole les âmes des jeunes filles. Elle va rencontrer aussi son apprenti, Michael, et son démon de feu, Calcifère. Et elle va essayer de rompre le charme, enfin son sort de vieille femme, et de rompre le charme aussi, le contrat qu'elle a avec, que Hurle a, excusez-moi, je suis un petit peu...
Voilà, avec Calcifère.
Avec Calcifère.
Voilà, pour s'en sortir. Donc, voilà. Par rapport à la date...
Mais donc jusque-là, c'est assez fidèle ce qu'a fait Miyazaki jusque-là.
Je dirais plus ou moins, puisque déjà le livre est basé surtout sur un conte, et est écrit comme un conte.
Bon, à noter une chose, c'est qu'au studio Ghibli, ils avaient déjà fait une adaptation très fidèle d'un roman, c'était Le tombeau des Lucioles. Là, ils ont décidé de prendre des libertés.
Ouais. La liberté, elle est surtout dans la description de l'univers, puisque dans l'univers de Diana Wins, le château est très peu décrit. Le château ambulant est très peu décrit, et surtout de manière un peu fantomatique. On dirait qu'il sort de la fumée, il se déplace, il se mouve un peu comme un serpent. Alors que chez Miyazaki, c'est surtout mécanique.
Enfin, on a l'impression d'un montage à la Monty Python, à la Terry Gilliam.
Voilà, tout à fait. On voit qu'il crache du feu, on voit des cheminées, ça bouge. Voilà, donc ça, c'est les grosses différences. D'autres différences, Sophie, dans le roman, elle est blonde. Alors que dans le film, elle est brune.
Ça, je crois que c'est pour que les Japonais puissent quand même, qui est quand même le cœur de cible au départ.
Voilà, tout à fait. Tout à fait, par rapport aussi au personnage de Hurle. Donc normalement, c'est dans le film de Miyazaki, c'est Aoru. Chez Diane, c'est Hurle. Il est beaucoup plus charmeur, beaucoup plus, je dirais, sale gosse. Un vrai sale gosse. Il est très coquet, il est narcissique, il est égoïste. Il a tous les tares. Et il embête fortement, pour pas dire autrement, notre chère Sophie.
Ah d'accord, donc cette espèce d'andouille, elle tombe amoureuse.
Elle tombe très amoureuse de lui, mais elle a du mal, hein.
Cœur tendre, hache de bois, bon, vas-y.
On sent quand même dans le film qu'il a quelques petits défauts comme ça, mais c'est beaucoup plus à fond dans le bouquin, parce que dans le film, apparemment, il a été assez aseptisé.
C'est très aseptisé, c'est très superficiel, je dirais. Mm-hmm. Dans le roman, on va plus en profondeur dans la psychologie des personnages, surtout du personnage de Hurle, qui est un magicien, à la différence des autres magiciens, qui est beaucoup plus, je dirais, déraisonnable, et beaucoup plus humain. Puisque il est beaucoup plus sensible. Il vient d'un monde d'ailleurs un peu étrange. On dirait qu'il vient du monde contemporain. Puisque sa sœur, on dirait qu'elle appartient à une bourgeoisie, elle a une villa. Ses neveux jouent à la PlayStation. Donc c'est assez bizarre. C'est assez étrange et ce personnage il est complètement émouvant et moi il m'a beaucoup touché.
Il a été écrit quand le bouquin ?
En 86.
Six, elle a
D'accord.
dit. Elle a
86.
Dit. Enfin, sur Diana White Jones, donc c'est une mamie anglaise de 71 ans, il me semble. Et bizarrement, contrairement aux autres mamies anglaises, plutôt qu'écrire des polars, elle fait de la fantasy et des contes.
Ouais, plutôt.
Et elle a quand même des particularités. Elle a eu de très bons profs.
Disons Carol Lewis.
Voilà, et
et Tolkien.
Voilà, donc c'est si peu et s'il vous plaît, elle est très amie avec Neil Gaiman et elle a noté qu'elle a un très bon site web d'ailleurs,
oui,
dianawhitejones.com, qui
fait.
Est très bien
donc,
foutu.
C'est un
d'ailleurs.
Site en anglais. Vous l'avez la version américaine et la version anglaise.
La version américaine est montée par l'éditeur.
Oui.
Voilà. Et
non, c'est très très bien fait. La page d'accueil est superbe. C'est vous avez toutes les informations sur les différents la bibliographie de Diana Wynne Jones. Sur l'univers, les personnages, vous avez des commentaires. Bon, tout est en anglais, certes, mais c'est super.
Donc voilà. On va terminer. Oui, vas-y.
Je vais dire une petite chose.
Vas-y.
Je conseille à nos auditeurs que je vous conseille de voir d'abord le film et ensuite de lire le livre. Parce que si vous lisez le livre d'abord, vous avez un univers particulier, très particulier. Si vous allez ensuite, vous allez voir le film, vous allez complètement être submergé par le livre et vous allez être complètement occulté par l'univers de Miyazaki.
Donc voilà, joli conseil. À noter, puisqu'on va terminer avec Miyazaki, mon voisin Totoro vient de ressortir et passe à l'Utopia jusqu'à la fin du mois de mai. Allez-y avec les gamins, allez-y. Vous êtes dans Supplément Week-end, c'est un spécial sorcière. Pour ceux qui n'ont pas compris, vous êtes sur Radio FMR si vous êtes tombé dessus par hasard. Et on va parler cette fois-ci de sorcières manière comics. Dans un éclairage qui est plutôt surprenant de Gossett et Caril, en deux tomes chez Semix, The Red Star. Et en fait, une vision des sorcières comme arme de destruction massive employée par l'armée rouge d'une espèce du RSS tenue par le moine fou. Rasputin, voilà. Donc c'est une URSS qui est une armée qui est très puissante, mais qui se retrouve débordée par les mages talibans d'Afghanistan, avec des scènes de combat absolument hallucinantes, dignes de Stalingrad. Mais vraiment, hein, une scène de ville désespérée où les soldats ne savent plus où se planquer à cause des snipers. Une lutte qui est vraiment, vraiment, vraiment au dernier degré, qui est très, très bien rendu d'un empire qui est en pleine déliquescence. Et surtout, le personnage des sorcières elles-mêmes qui sont donc employées par le KGB ou par l'armée rouge, très surprenant, mais finalement qui passe très, très bien et qui est très émouvant. C'est servi par un graphisme qui oscille entre le comics moderne d'un côté et de l'autre le réalisme soviétique. Vous allez me dire, il y a quand même un truc bizarre. Eh ben non, au contraire. Dans cet univers de science-fiction alternative, on est complètement dedans, on est submergé, c'est littéralement bluffant. La sorcière comme arme de guerre, eh ben c'est dans The Red Star, c'est en deux tomes chez Semic, de Gossett et Caril, et ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup d'œil.
En fait, on trouve là-dedans la réutilisation d'une mythologie, sorcière, démon, etc., comme l'avait fait justement Mignolia dans Hellboy.
Exactement, oui, c'est à peu près ce style-là, sauf que là, ce sont des personnages qui sont parfaitement intégrés dans la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'ils ont un statut social, ils sont vus comme des héros du communisme mystique. C'est un peu surprenant, mais d'un autre côté, elles sont parfaitement, je veux dire, dans l'histoire, mais elles subissent au premier chef les combats parce qu'elles elles ont une action physique qui est très intense dans leur sort, où elles doivent détruire des vaisseaux comme ça d'un coup, mais d'un autre côté, justement, elles le prennent très mal leurs privilèges sont en train au fur et à mesure de s'effriter et que le combat est de moins en moins évident. Donc c'est à lire. Moi, franchement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. On va terminer avec cette sélection sur les sorcières avec une série télé qui vient de sortir en DVD, une série animation coffret 6 DVD qui vient de sortir. Elle est sortie déjà depuis 8-9 mois, mais il m'a fallu du temps pour la regarder. Ça s'appelle Robin Witch Hunter, donc chasseuse de sorcières Robin. C'est chez Beast Entertainment, donc un coffret 6 DVD, 26 épisodes, 26 minutes. Il faut se les faire un seul coup. C'est l'histoire d'une organisation internationale, Salomon, qui mène la chasse aux sorcières, au sens propre, c'est-à-dire moi voir, moi tu. Hé, toi, sorcière. Enfin, bon, bref, là, vous vous dites, oula, bon, ça y va, sérieux. Depuis des siècles, certains humains portent des gènes pouvant leur donner des pouvoirs surnaturels. Certains deviennent carrément des witches, des sorcières. Mais, ils l'utilisent indifféremment dans un sous-titrage, aussi bien au masculin qu'au féminin. bizarre, hein. Moi j'aurais mis sorcier, enfin bon, tout ça parce qu'ils sèment la peur parmi les simples mortels, mais surtout parce qu'ils ont des velléités de domination sur les petits inférieurs là, vous savez ce qu'on appelle les humains là. Allez, je vais me blaster ça un peu au petit déjeuner. Bref, heureusement, tous les sorcières ne sont pas comme ça, puisque certaines décident de travailler pour l'organisation Salomon, montée par le roi du même nom, en tant que hunter, en tant que chasseur de sorcières, en pourchassant et en éliminant ceux qui sont comme eux. Sauf la section japonaise du SNTJ, qui, grâce à Lobo, une espèce de substance un peu bizarre qu'ils ont tous en pendentif dans une croix, arrive à capturer les sorcières et les étudie dans une usine mystérieuse dont on ne verra que très rarement, on entend juste parler. Et pour repérer les sorcières, c'est très simple, suffit d'informatiser tous les arbres généalogiques de la planète, de savoir quelles ont été les sorcières par le passé, et après on les retrace. C'est assez orwellien quand même, comme méthode d'analyse. Je vais même dire que c'est carrément glaçant parce que t'es une sorcière, on va te capturer et puis on va faire des expériences sur toi. Mais non, mais je vous jure que je n'ai rien à voir. Pan, pan. Bon, c'est un peu glaçant, mais c'est justement là-dessus que se fait toute l'histoire jusqu'à l'arrivée de Robin, donc une fille de 16 ans. Qui est d'origine japonaise, qui a de la famille de sorcières et qui a été élevée dans un couvent italien et qui se déplace d'ailleurs en Vespa. Assez surprenant, mais bon, après tout, pourquoi pas. Et elle est secrètement amoureuse du beau et ténébreux Amon. Je vais pas en dire plus, sinon il y en a qui vont m'étriper vivant si je leur passe le coffret DVD là. C'est dans la lignée de Serial Experiments Lane. C'est une image minimaliste, des décors 3D à la production, tout simplement pour économiser les sous à la prod. Ça coûte pas cher. La bande son est pas beaucoup travaillée, mais quand même, elle met bien l'histoire. C'est un faible budget. En général, les séries d'animation au Japon sont sponsorisées par une marque, principalement de jouets, qui va faire plein de produits dérivés autour. Mais là, le faible budget, ça permet justement de ne pas avoir à produire une série sur laquelle on est censé beaucoup s'attacher, etc. C'est une programmation nocturne, donc cela induit un scénario innovant et un public adulte. Et ajouter le gothique, qui est très à la mode en ce moment. Oui, vas-y.
Tu disais que ça ressemblait beaucoup à Lane. Est-ce que ce sont les mêmes qui l'ont fait?
Ah non, justement non. Ah, bon. En tout cas, ils s'en sont inspirés. Mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de copycat de Lane sur le même thème. Là, c'est un copycat original puisqu'on parle pas du net, d'esprit dominateur, etc. Là, on parle de sorcière vraiment sur autre chose. C'est plutôt très 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 bien amené. Et puis justement, il y a cette thématique gothique qui n'est pas justement dans Lane au départ, parce que Lane c'est plutôt un truc assez dépressif, assez déprimant, mais il n'y a pas toute l'imagerie qui va avec. L'histoire démarre gentiment, mais c'est une série qui est en une seule saison, c'est-à-dire qu'il y a 26 épisodes et puis point barre, ça s'arrête. Donc qu'est-ce qui se passe? À partir d'un certain nombre d'épisodes, en général c'est la moitié, oui. Là c'est à partir du tome 10, paf, on se prend un choc, on est dans l'histoire, il y a littéralement autre chose qui se passe, et tout d'un coup on se retrouve con comme gros gens et on est scotché, on se dit je vais tous me les faire cette nuit, je vais tous me les faire, et puis voilà. Bref, c'est une bonne surprise qui paie pas de mine au début. C'est chez Biz Entertainment, une prod Banda Sunrise, c'est en 26 épisodes 26 minutes, Robin Witch Hunter, c'est en coffret 6 DVD, et j'ai trouvé la bande son de la série en version longue, donc on va se la passer comme ça, après on va pouvoir continuer l'émission.
しまった鼓動
C'était la spéciale sorcière donc de supplément week-end. Donc Thomas, et ben tu peux nous faire un résumé, je te prie.
Voilà, ben pour clore l'émission, je suis bien emmerdé en fait, puisque pour une fois on a été assez professionnel.
Ah bon, tu crois jusqu'au bip sonore là normalement, ouais.
Oui, bon. Voilà, ben pas grand-chose. Tu as pensé au bipower, effectivement. Voilà la preuve.
Voilà, 13h pile, et donc on va pouvoir lancer du sport qui va faire le magazine sportif dès maintenant
et la télé.
C'est pas la semaine sans télé à partir de lundi ?
Ouais, mais ça on s'en tape, hein.
Oh bon, d'accord, allez.
Okay. Non, complet.
Et donc la partie télévision vous est présentée par du sport.
Ouais, avec tout d'abord une petite critique concernant l'émission de la semaine dernière.
Ah hein,
que j'ai écouté. Oups. Quand même.
Ouais, parce qu'il était calé quand même, il était malade.
C'est con parce que ça tombait en même moment qu'un super reportage sur le tournage de Breaking News, le dernier Jonito. Alors bon, j'ai dû regarder le reportage sans le son, quoi. Mais bon, c'est pas mal quand même. Alors, j'ai remarqué au moins 5 recours à « Ah, mais du sport n'est pas là dans cette émission
». Et t'as le numéro direct en tête, 0561 180 580, voilà, on t'aurait inséré.
Il y a eu 3 cassages à propos du Toxic Avenger contre Thomas, hein, n'est-ce pas?
Oui,
et bon,
vrai.
tu as beaucoup de chance parce que là, actuellement, on est en train de repeindre chez nous. Sinon, je t'aurais ramené le Toxic Avenger 2.
Ah, mais ça
Toxic Goes to Tokyo, qui est excellent, qui est magnifique. Il y a eu une pub mensongère également dans l'émission de samedi dernier, hein, les hallucinés n'ont pas eu d'invité mardi dernier.
Ils
ne sont pas venus.
Il l'avait annoncé en début d'émission et donc Franck n'a pas pu venir alors. Bon, d'accord. Donc
quelle bande de gougnafiers, sont des menteurs en plus.
Pour être méchant vis-à-vis quand même de nos sympathiques camarades du mardi à midi, donc des impromptus, on les a quand même cassés au téléphone. C'était pas gentil parce qu'ils débutent, mais on a trouvé pas mal d'incohérences. On va pas revenir dessus. Mais Louis, si tu nous écoutes, on tient à s'excuser platement. On le refera mardi prochain. Oh, vas-y, continue.
Bon. Voilà, bon, à part ça, c'était pas mal. Hein, surtout que les deux invités, la bonne complémentarité, hein, c'était vraiment impeccable, hein, pas de problème. Voilà. Un petit peu de télé quand même, hein, si ça vous déplaît pas trop. Tiens, là, je te rends tes BD. Alors, Lipstick, c'est pas mal, hein. La nana qui ressemble à Maïtena, hein, ça rafraîchit toujours un peu la libido, je trouve, hein.
Madame du sport, je tiens à m'excuser.
Et alors, surtout celui-là, là.
Superman, alors, Identité secrète.
Superman, Identité secrète, paru chez Semic. Ouais. Alors là, c'est carrément, là, c'est du lourd, hein, on peut dire. Au niveau du scénario, au niveau de l'histoire, là, ça commence à devenir vraiment très très bien. Hein, alors, c'est tout con, hein, c'est l'histoire d'un petit gamin qui est né dans une famille qui s'appelle Kent. Et bien sûr, ses parents trouvent rien de mieux que de l'appeler Clark. Et donc, bah, quand il est à partir du moment où il est gamin, bah, il commence à se faire boulier sérieux grave à l'école. Ah ouais, Clark Kent, tu peux pas voler là et tout. Enfin bon, genre, ça devient le souffre-douleur de, carrément. De... Et lui, il a les boules, vraiment. Puis bon, ce qu'il a, c'est que il part se balader avec son chien. Et il découvre, d'un seul coup, comme ça, ben, qu'il arrive à voler. Et il commence, au fur et à mesure, à prendre conscience qu'il a vraiment les pouvoirs de Superman. Parce que, en plus, sachant qu'il s'appelait Clark Kent, à chaque anniversaire, ben, qu'est-ce qu'on lui offre? Eh bien, la panoplie de Superman, avec les machins. Lui, il en a ras le cul, il fout tous ses jouets, il les enferme dans un placard, il y en a marre, il fait chier avec ses conneries et tout. Et ça raconte l'histoire, ben, de ce jeune adolescent qui commence à découvrir qu'il a vraiment les vrais pouvoirs de Superman. Et par contre, ce qui se passe, c'est que quand il commence à s'en servir, bien sûr, dans la même veine que Superman, c'est-à-dire pour aider des gens qui sont en difficulté, ce qui se passe, ben, c'est que il y a des gens qui cherchent à savoir qui il est, qui cherchent à le capturer, et on se demande bien pourquoi. Et là, ça commence à devenir vraiment grave et assez un petit peu dur, je trouve.
Enfin, j'aime
c'est
bien
vraiment très très bien.
J'aime bien du sport qui rend donc la BD un mois après que j'ai fait la chronique, qui dit oui, on va parler télévision et qui fait une chronique BD. Bravo.
Absolument. Bah, tout simplement parce que ça va très bien avec.
C'est très très bien. Ouais.
Ça va très bien très bien avec bien avec le programme de M6 ce soir, la saison 4 de Smallville qui est exactement la même chose. Hein. C'est l'histoire de Superman. Bon, là, évidemment, il y a une origine complètement différente. Hein, je veux dire, dans Smallville.
Enfin, là, il est pas
on
dans
s'attache
un uni-
plus aux origines, on va dire
du Queen,
du comics, du hein, on va dire Roots. Mais la série, ben, commençait à avoir un petit coup de un coup de mou, on va dire, hein, dans la saison 3. C'était pas tellement ça. On se cherchait, les personnages se cherchaient, n'étaient pas exactement à leur place. On savait pas trop. Alors que dans cette saison 4. Ben, ça va dépoter un petit peu plus. Et c'est surtout l'arrivée dans la saison 4 de la partenaire mythique de Clark Kent.
Lois.
Lois Lane. Lois Lane, donc, qui est interprétée par Erica Durance. Erica Durance, une Canadienne, qui est mariée avec David Palfy. Et David Palfy, vous connaissez pas, mais vous le connaissez certainement. Vous l'avez déjà vu à la télé, c'est normal. Vous l'avez vu dans Stargate. Mais vous le reconnaîtrez quand même pas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui joue le rôle d'Anubis. Donc, forcément,
vous n'êtes
pas prêt de le reconnaître. D'accord. Et dans cette saison 4, on voit apparaître comme guest star et également comme, on va dire, comme personnages qui vont tenir des rôles dans plusieurs épisodes, Michael Ironside.
Ouais, youpi.
Michael Ironside, qui est déjà un familier, on va dire, un grand familier des séries télé, hein, c'était un rôle récurrent, c'était Ham Tyler dans la série V, hein, avec Mark Singer, Robert Englund, qui jouait sans le masque, mangeons du lézard. Et dans une série un petit peu moins connue, et pourtant, qui aurait dû péter le feu comme c'est pas permis, vu que c'était production Spielberg et tout, avec une distribution que je te tape la gueule avec, quoi. Michael Ironside, Roy Scheider, Ted Remy, Michael and Peter DeLuise, enfin bref, que du beau monde. Hein. Et pourtant, bah, Sequest s'est ramassé la gueule après 3 saisons. Hein. Et pourtant, voilà. Bon, bah, Smallville, ça commence ce soir. Alors, 2 épisodes inédits ce soir de la saison 4. Donc, c'est sur M6. Sinon, ce soir également, retour à Inspecteur Robert Goren et à Alexandra Ames, Vincent D'Onofrio, Catherine Herbe, c'est New York Section Criminelle. Ça, c'est le titre que donne TF1. Le vrai titre original, c'est Law and Order Criminal Intent. Et c'est sur TF1 à partir de 23h20. Ce soir, c'est la saison 4, 2 épisodes, donc également des inédits. Et alors, Zidane. Comme TF1 se fout complètement de la gueule du client, comme d'habitude, et passe des programmes vraiment n'importe comment, et surtout
allez,
pour
on mélange
à pâté le chaland. Je vous ai déjà dit que New York Section Criminelle et l'autre dérivé de Law and Order, à savoir Law and Order Special Unit, c'est-à-dire les crimes sexuels, les trucs du sur enfant et tout, c'était programmé justement dans cette case horaire du samedi soir 23h20, en troisième partie de soirée, parce que eh bien certains épisodes sont tout simplement codifié moins 12, il y en a d'autres qui sont moins 10, il y en a d'autres qui sont regardables, enfin bon, vu les thèmes abordés, c'est pas tellement fait pour les gosses. Eh bien, TF1 trouve tout à fait intéressant de programmer le dimanche après-midi en lieu et place, de CSI Miami ou CSI, c'est-à-dire à 15h50, New York Special Unit, excellente série policière avec Christopher Meloni et Mariska.
Voilà, ils le font depuis
mais
dimanche
en plein après-midi, en plein dimanche. Bravo les gars,
bravo.
Chapeau. Ça vraiment là, chapeau. Hein. Même si vous passez les épisodes qui sont, on va dire, les plus édulcorés hein, au niveau des thèmes, bah quand même, ça a un petit peu de mal à passer. En introduction, on a passé la musique de Code Quantum, et d'ailleurs, si tu veux, tu peux même continuer à passer le numéro 12.
Je voulais passer le 12, oui, parce que le 3, ça parlait, donc je viens de le zapper.
Oui, non, tu passes le numéro 12, là, tu vas voir. Hein. Vas-y, envoie le 12.
Voilà,
hein.
Ouais.
Un petit peu de rap, tu vas voir.
Et tant que tu parles de Code Quantum, à signaler que cette série est suivie de X-Files, et quand tu disais programmation d'épisodes assez limite quand même, M6 programme X-Files le samedi après-midi quand même. Hein.
Ouais, c'est vrai aussi. Écoute. Yeah. Allez, le mec qui est en train de faire du hip-hop derrière là, c'est quand même Dean Stockwell, hein, je vous signale. Hein. Là, c'est Dean Stockwell qu'on est en train d'entendre dans le morceau qui s'appelle Alphabet Rap Song et qui figure dans un des épisodes de cette série Code Quantum. Alors Code Quantum, c'est quand même une idée géniale, c'est un pitch génial, hein, au niveau série très très bon. Hein. C'est un ingénieur de l'armée américaine qui décide de construire une machine à voyager dans le temps. Et pour tester cette machine, bah c'est lui, c'est un petit peu la même chose qu'H.G. Wells, hein, de toute façon, hein, et il se teste lui-même. Et ça donne comme base, eh bien, l'histoire qui peut parcourir dans le temps et arriver à des périodes différentes du temps, sachant qu'au départ, on a un petit peu circonscrit cette période au début, c'est-à-dire à savoir sa date de naissance jusqu'aux périodes contemporaines, quoi, pour un petit peu bien qu'il y ait quelques épisodes qui descendent un petit peu plus loin, qui aillent enfin, à la Seconde Guerre mondiale, il y en a également qui vont jusqu'à la guerre de sécession, enfin c'est très très rare quand même, c'est plutôt dans la période, hein, qui va des années 50, on va dire des années 40, fin de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'aux années 70-80, on va dire. Et en fait, Scott Bakula, qui est l'interprète principal, donc, hein, eh bien, se retrouve projeté comme ça dans le temps, dans la peau de quelqu'un qui va accomplir quelque chose et va avoir la possibilité de ce fait-là, eh bien, d'avoir cette espèce de quantum leap, c'est-à-dire ce saut dans le temps qui lui permet de modifier la situation et de modifier l'histoire de ce fait. Car ce qui se passe dans Quantum Leap, dans Code Quantum, c'est que on arrive à des situations où il va se retrouver confronté au tout jeune Buddy Holly qui n'a pas encore écrit Peggy Sue. Il va se retrouver coincé entre Lee Harvey Oswald et Marilyn Monroe. Va-t-il l'arrêter ou pas? Ça, c'est vraiment l'épisode qui m'a beaucoup marqué, moi, je veux dire. J'ai pas regardé tous les épisodes, mais enfin bon, celui-là m'a pas mal marqué parce que c'est vraiment une construction scénaristique absolument impeccable. C'est vraiment très très difficile, mais ils arrivent très bien. Et c'est une série qui doit également beaucoup à son acteur principal, Scott Bakula, qui arrive à se glisser dans la peau des personnages masculins et féminins avec une aisance qui est vraiment partagée. C'est vraiment un régal. Code Quantum qui est diffusé tous les samedis, hein, c'est rediff, donc tous les samedis de 13h15, c'est-à-dire là maintenant, quoi, jusqu'à 15h des poussières, deux épisodes à la suite, ça vaut le coup.
Et Dean Stockwell, dont tu parlais tout à l'heure, très belle complicité entre ces deux acteurs.
Voilà, Dean Stockwell qui joue le rôle d'un hologramme, hein, qui est un petit peu son collègue, qui est resté sur place là-bas, à côté de la machine à remonter dans le temps, et qui se déplace également en compagnie de Scott Bakula, mais qui lui est juste représenté sous la forme d'un hologramme, en fait. C'est-à-dire que lui, en fait, ne peut pas intervenir dans les différentes situations, alors que Scott Bakula, lui, peut intervenir dans les différentes
situations. Et Scott Bakula est le seul à pouvoir voir l'hologramme, d'ailleurs.
Et Scott Bakula est le seul, par contre, à pouvoir voir l'hologramme, c'est-à-dire Dean Stockwell. Encore, et alors là, c'est quand même relativement plus rare, et c'est pour ça que j'ai décidé de tirer un petit peu, c'est une collection qui s'appelle Série Noire, et qui est diffusé un épisode, c'était quand même des formats d'1h15 à 1h30 sur la chaîne Action ce soir à partir de 20h40. Et là, le série noire qui vous est proposé, c'est le série noire qui s'appelle Main pleine de Laurent Hahnemann de 87 avec Gérard Darmon et Christine Pascal.
Oh,
série noire, qu'est-ce que, eh bien, coproduction télé qui avait été initiée au départ par Marcel Duhamel, c'est-à-dire le créateur de la série noire, et monsieur Pierre Grimbelat qui était un petit peu un gros patron en ce qui concernait la production télé dans les années 80 au début des années 90. Après, il était trop vieux, il a décidé de revendre et il avait fait cette pognon, et il avait décidé d'instiller cette série qui s'appelle Série noire d'après des auteurs français au départ qui ont publié dans la série noire, cette fameuse collection de Gallimard. Et donc ça a donné 37 fois 90 minutes réalisées par des auteurs français français généralement, hein, assez prestigieux, avec bien sûr tout le gratin de ce qu'il y avait comme acteur et actrice de l'époque, avec Grimblat qui a également réalisé Nos de plomb, il y a 96 par Marcel Bluval, il y a également Sa Majesté c'était le flic par Jean-Pierre Decourt, Jacques Rufio qui a fait J'ai bien l'honneur, il y a Juan Luis Buñuel qui est le fils de, qui a réalisé Aveugle tu, Jacques Herto, le grand môme, José Giovanni, la Louve, Maurice Dugoffson, Adieu la vie, Jean-Luc Godard, de Grandeur et décadence d'un petit commerce de cinéma, hein, Godard, Paul Vecchiali, Gérard Mordilla, Gilles Béat, il y a Yves Boisset.
Ouais, du lourd, quoi.
Il y a du gros lourd, hein, vraiment, c'est du gros lourd, et avec alors tout le gratin, hein, du comme acteur, il y a Stévenin, Eddie Constantine, Fresson, Agnès Soral, Cluzet, Valanou, Jean-Pierre Léo, Bernard-Pierre Donadieu, et même des petits jeunes qu'on connaissait pas encore à l'époque, hein, Fabienne Bab, Elisabeth Bourgine, André Dussolier, Christophe Malavoie.
Hein, on l'a pas revu depuis depuis tant de temps, c'est étonnant.
Voilà, donc première diffusion de 84 jusqu'à 91, coproduit Hongrie, Italie, Suisse, Luxembourg, France. Hein, et je me rappelle de quelques épisodes vraiment très très bons, mais j'ai perdu le titre, j'ai perdu le nom du mec qui a écrit le bouquin. Mais la mariée rouge, voilà, c'est ça. Mais j'ai perdu. Alors là, c'est carrément jouissif, très très bon. Hein, voir des trucs comme ça à la télé, c'était diffusé le samedi soir en première partie de soirée sur TF1, me semble-t-il, hein, à 20h30, 20h40.
Tu es sûr que sur TF1, c'était pas Dallas à l'époque ?
Non, t'en fais pas. Il y a eu des trous comme ça. C'était la fin de Dallas, hein, d'ailleurs à l'époque.
Ah, si.
Donc ce soir, c'est sur série Action, sur la chaîne Action à 20h40, main pleine de Laurent Neumann avec Gérard Darmon. Là, il était vraiment très jeune et pas du tout connu, hein. Et Christine Pascal, ben, qu'on verra plus, ça c'est clair. Et j'ai également un documentaire très intéressant qui était passé en plusieurs parties sur Arte il y a 2 ou 3 ans. C'est CIA Guerre Secrète sur Planète, jeudi prochain. 3 parties, la première partie 17h10, c'est la partie qui retrace l'historique de la CIA de 47 à 77. Deuxième partie, c'est de 77 à 89. C'est-à-dire avec George Bush, père, et la troisième partie avec 90 jusqu'à la chute des tours maudites. Du cinéma avec un Michael Dudikoff.
Encore
ce soir à 20h45, la dernière cible de Damien Lee.
Ah bon, j'ai cru que t'allais parler du coup de Bob l'éponge. Mais
non.
Michael
Dudikoff qui joue le rôle d'un chasseur de primes qui est accusé de meurtre. Hein, c'est pour vous dire. Sinon, il y a également le Clint de la semaine quand même. Et là, je l'ai trouvé dans pas un Clint, c'est un Richard Benjamin de 85, mais qui est resté inénarrable. Et je crois que tous les gens qui l'ont vu en ont gardé un souvenir impérissable. C'est Oh les flingues avec Burt Reynolds. Magnifique, hein, c'est duo, c'est vraiment lourdingue. C'est ça fait plaisir à voir. Il y a également George Segal et Elliot Gould. Ce qui fait que rajoute un autre plaisir, ainsi que la participation de Bob Hopkins, qui à l'époque était vraiment pas trop connu. Là, pourtant, bon.
Après Roger Rabbit.
Ouais. Prêt à avoir un petit peu avant Roger Rabbit. Non, après 85. Après Roger Rabbit. Hein.
Bob non, Kins, Roger Rabbit, c'est après. C'est 88, Roger Rabbit.
Oui, il me semble aussi.
Ah bon. Ouais, mais on l'avait déjà vu dans Mona Lisa, Bob Hopkins. Hein, qui datait d'avant. Ok. Un autre Clint, si vous voulez. Alors, celui-là, c'est un plus traditionnel. C'est L'évadé d'Alcatraz de Don Siegel. Sur France 2, mardi prochain, 22h50, avec Patrick McGowan. Ah là, excellent. Et Fred Ward, toujours inénarrable.
En
concurrence avec un David de Coteau de 96, hein, le cinéaste homosexuel du bout du monde. Une ville trop tranquille, ça s'appelle, avec Ron Silver, James Coburn et Christopher Plummer. Devinez qui sera l'homosexuel dans l'histoire.
Christopher Plummer,
Ron Silver, James Coburn, Christopher Plummer. Qui va jouer le
troisième
rôle de l'homosexuel. T'as tout compris. Voilà, et c'est tout. Et c'est tout pour cette semaine.
Bah d'accord. Et ben du sport. Merci.
Si. Et quand même.
S'il vous plaît.
Ah oui. Ça me faisait de l'œil depuis tout à l'heure.
Attention.
Il est
sorti. C'est le hors-série Mad Movie, l'âge d'or du cinéma de genre italien, avec donc les cinq genres: péplum, western, polar, horreur et érotique. Et alors, pour les vieux cons comme moi, nous on achète ça parce que derrière, dans la truc érotique, je vous assure. Ça va être...
Quoi, il y a la page qui se déplie ?
Il y a la page avec toutes les filles, elles sont toutes là, tu les as toutes. Là.
Toutes les filles qui se sont fait hacher menu.
Regarde.
Partir au
Ah ouais, d'accord. Voilà, ça nous rappelle quand on était jeunes.
Et les belles lèvres, les bonibars, les machos.
Et pour les plus jeunes, ça leur dira que dans le temps, en Italie, vraiment, ils savaient faire du cinéma.
J'avais pas honte.
Non, mais bon, non, c'est incontournable de toute façon, hein, parce que bon, bah, il y a de tout, le truc sur le péplum, sur le western, sur le polar, sur l'érotique, hein, c'est vraiment très complet, très très complet, avec également une discographie de Ennio Morricone, avec également un petit truc sur Sergio, sur Sergio Leone, attention, hein, c'est du lourd, c'est le Manouvi, donc hors série 9,90, c'est le 5e, je crois.
C'est Zola, oui. En tout cas, il a l'air bien volumineux.
Ah ouais, il est épais, hein, t'en fais pas. Non, il y a de quoi. Y a
impressionnant.
Voilà.
Eh ben, du sport, le temps que tu prennes la suite de l'autre côté du micro, de la régie, excuse-moi, que tu viennes prendre ma place en régie, et toi, tu me rends le Superman.
Moi, je l'intercepte, hein, Superman.
Ok. Et tu sais quand même qu'on déborde déjà de 18 minutes et 20 secondes, là.
On est loin du record, hein, je te rappelle.
Ah, bah, tu vas voir, avec le résumé, on va dépasser largement. Allez, vas-y.
Eh ben, comme je dis tout à l'heure, on a été plutôt professionnel aujourd'hui, je trouve. Il faut juste noter un petit débordement de chronique qui était censé se dérouler beaucoup plus rapidement. Et puis, une fois n'est pas coutume, quand même, fait exceptionnel. Du sport, c'est quand même fait un petit peu cassé en fin d'émission, quand même. Alors, voilà, assez rare pour être souligné.
Je dirais que c'est plutôt remarquable, hein. Enfin bon, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine à partir de midi. Hein,
effectivement.
Voilà. La suite des programmes, Thomas et Sabrina, merci d'être venus. Du sport va prendre la suite après jusqu'à 15h. 15h, c'est Yaka Roulé, c'est du reggae. C'est Rachid, c'est ça qui mixe Non, je sais plus. Je sais plus qui le fait. Hein? Ah, c'est Asdin. Ah bah tu lui feras une bise de ma part, tiens. Ça me fera plaisir. 17h Vie d'ordure avec Vomi, Rognon et les autres. 18h30 Clark Nova. Très bon site, clarknova.org. Faites-vous plaisir, allez-y, vous allez pleurer de rire. 20h la Stereo Experience, 21h30 Liquid Sky, 23h Breakbeat Experience. Vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz. Rendez-vous la semaine prochaine.
Bon week-end.
Yeah.
On va un petit peu dérider l'ambiance avec voilà, assistance technique dans les paddocks, merci. Le fil du micro qui fait des siennes, hein, c'est pour ça que je faisais tout avec presque toute l'actualité sportive réduite à moins de 3/4 d'heure du foot, bien sûr, avec la 34e. Reste 5 journées, hein, d'ici la fin. Ligue 2 nationale, CFA, CFA 2 et football à l'étranger. NBA, le début des playoffs. On parlera également du basket en France, un petit peu de hand, du rugby. Ça m'étonnerait qu'on ait le temps. On terminera avec la télé sportive du week-end.